Voilà, bonjour à tous.
On va continuer un peu notre thème que pour cet automne que nous avons, justement restaurer notre relation avec Dieu, l'exemple de Néhémie. Donc, vous savez que depuis ce printemps, nous avons commencé à développer ce thème, restaurer notre relation avec Dieu. Donc, on l'a vu à travers Ésaïe 58, on a décortiqué durant tout ce printemps. Qu'est-ce que ça voulait dire justement restaurer nos relations avec Dieu et avec les uns, avec les autres? Et cet automne, on va continuer, mais en commençant une étude à travers le livre de Néhémie. Néhémie, c'est vrai qu'on le cite beaucoup comme un leader, mais c'est aussi quelqu'un qui a compris comment travailler avec le Seigneur pour réussir vraiment le projet, la mission que Dieu lui a donnée. Donc, la semaine passée, nous avons commencé à voir la prière. Donc, ouvrons notre Bible dans Néhémie chapitre 1 et on va répéter quelques points importants aussi que nous avons vus la semaine passée. Donc, la semaine passée, on a vu que le peuple de Juda donc, était en déportation à Babylone et que justement, à cause des conséquences des péchés, à cause de la conséquence qu'ils s'étaient éloignés du Seigneur. Et lorsque Néhémie reçoit des nouvelles comme quoi que Jérusalem est détruite, que la muraille elle est détruite, il est vraiment dans le désarroi. Parce qu'il y avait une partie du peuple qui était retournée justement à Jérusalem et qui avait commencé la reconstruction du muraille. Mais à cause des ennemis, tout avait été arrêté par le décret du roi. Donc, Néhémie, lorsqu'il entend ces nouvelles, il est vraiment dans la désolation, il est dans les pleurs. Il est vraiment dans la tristesse de voir ce qui se passe. Néhémie va faire quelque chose de merveilleux. On va le voir tout au long un peu de cet automne, parce que lorsqu'il va accomplir la mission, il a été capable de reconstruire la muraille en 52 jours. Et c'est vrai que pour une ville comme Jérusalem, qui est la capitale d'Israël, c'était important que les murailles soient belles, que les murailles soient présentes, parce que ça montrait comme quoi que le peuple était là. Comment que la capitale tenait le fort, comment que les gens pouvaient compter aussi sur la capitale pour continuer d'être représentés en tant que peuple. Mais le fait que tout est anéanti, le fait que tout soit détruit, montrait la raillerie que des autres peuples envers Juda, envers Israël. Et voilà pourquoi qu'il est abattu, triste. Il jeûne et il prie. Même s'il a des milliers de kilomètres, même s'il n'a jamais habité, entre guillemets, en Israël parce qu'il était déporté donc à Babylone, il a cœur de prier pour ces personnes. Donc si aujourd'hui nous voulons travailler à l'avancement du royaume de Dieu au Québec et ailleurs, il faut d'abord qu'on ait cette attitude justement, cette attitude d'être au plus proche, de toucher au plus profond notre cœur lorsqu'on voit la désolation de ce qui se passe autour de nous. On voit le mal de plus en plus qui règne. On voit la méchanceté des humains de plus en plus. Et on voit que les gens ont des peurs, les gens ont des craintes, les gens sont suspicieux. Et on doit, en tant que chrétien, justement, être désolé de cette situation. C'est vrai qu'on peut facilement critiquer, ah ben c'est à cause du mal, etc. Mais on a besoin, comme Néhémie, de pouvoir prier, d'être dans la tristesse, dire, Seigneur, le monde est loin de toi. Le monde perd les valeurs chrétiennes et on a besoin de revenir à toi. Voilà pourquoi qu'on a besoin, on a besoin vraiment d'être aussi dans la tristesse lorsqu'on prie, on doit vraiment être là aussi avec ces personnes. Ensuite, on a vu justement dans la prière, prochain dia, que Néhémie va faire une prière audacieuse, mais avec tellement d'humilité. C'est vraiment justement le signe d'un homme qui est rempli de la crainte de Dieu, du respect vers Dieu, le désir de remettre sa vie entièrement sous le regard de son Dieu. Donc Néhémie a commencé par la prière à adorer Dieu, à exprimer la grandeur, la puissance de Dieu, même s'il est en déportation, même s'il ne voit pas la puissance de Dieu se manifester actuellement, il sait que Dieu est puissant. Il rappelle qu'il ne s'adresse pas à un simple Dieu, mais au Dieu du ciel et de la terre, au Dieu trois fois saint. Après avoir reconnu la puissance et la grandeur de Dieu, il intercède pour les frères du peuple d'Israël, en confessant leurs péchés, reconnaissant leurs manquements et l'éloignement de Dieu. Donc, si vous regardez dans les versets 6 et 7 de Néhémie 1, vous allez voir que Néhémie va utiliser le mot nous. Donc, c'est comme on dit, ce n'est pas lui qui a péché. Ce n'est pas lui qui a conduit le peuple en déportation. Mais il reconnaît qu'il n'est pas meilleur que ses compatriotes. C'est pourquoi qu'il prie en disant « Nous avons péché, nous nous sommes rebellés contre Dieu ». Lorsqu'on confesse devant Dieu nos péchés, on a besoin d'englober aussi ce qui passe autour de nous. De ne pas simplement décrier que la société québécoise va mal, perd ses repères, va dans une direction loin de Dieu. Le mal s'est répandu partout et on vit malheureusement les conséquences de ce mal. Mais voilà pourquoi qu'on a besoin de prière. Seigneur, nous avons péché. Nous nous sommes éloignés de toi. Et il termine sa prière en suppliant Dieu que la démarche qu'il va entreprendre puisse être couronnée de succès. Il croit que c'est important. Il croit que c'est important justement de pouvoir vraiment demander à Dieu d'intercéder, de supplier Dieu pour que sa démarche, pour ce qu'il va faire, puisse se réaliser. Alors regardons plus loin, prochain diacre, qu'est-ce que Néhémie fait. Mais avant d'aller plus loin, on va regarder juste une phrase, un bout de phrase que nous avons étudié la semaine passée. Regardez dans la deuxième partie du verset 11 de la prière de Néhémie, donc de chapitre 1, verset 11. Dans la deuxième partie, il est dit « De grâce, fais réussir aujourd'hui la démarche que je vais entreprendre et que cet homme m'accueille avec compassion. » Donc, Néhémie demande deux choses dans sa prière. Un, fait réussir la démarche qu'il va entreprendre. Nous, on connaît la suite de l'histoire. On sait que c'est une réussite sur toute la ligne. Mais mettons-nous à la place de Néhémie, qui va continuer de prier afin de voir réaliser cette demande. Lorsqu'on lit ce récit, on pense qu'il a prié et jeûné pendant un certain temps. Puis le roi a vu sa tristesse et va l'envoyer à Jérusalem plus tard. Selon les historiens bibliques, ça a pris au moins 4 mois avant que le roi remarque la tristesse de Néhémie. Donc durant tout ce temps, Néhémie continue de prier, d'implorer Dieu avec larmes et persévérance pour que sa prière s'accomplisse. Donc une première leçon qu'on peut tirer de cette phrase, c'est de continuer de prier avec persévérance, avec humilité, avec courage, pour que nos prières reviennent à s'accomplir dans le temps de Dieu. Oui, des fois, la prière peut être instantanée, mais des fois, ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, même plusieurs années. Dieu, des fois, permet que la réponse tarde, parce qu'il veut que nous puissions continuer de persévérer, qu'on fasse confiance à lui. Le deuxième point qu'on voit, qu'il dit que cet homme, c'est-à-dire le roi, accueille sa demande avec compassion. Donc, Néhémie était l'échanson du roi, donc celui qui servait le vin à table. On va expliquer un peu plus qu'est-ce que ça voulait dire les chansons tout à l'heure. C'est-à-dire que lui, le roi, avait la vie et la mort du roi entre ses mains. En tant qu'échanson, il servait du vin. Il peut très bien empoisonner le vin pour tuer le roi. Et c'est ce qui, malheureusement, se faisait beaucoup. Voilà pourquoi que, justement, il y a un homme qui était toujours là pour goûter les mets avant de le servir au roi pour être sûr qu'il ne soit pas empoisonné, etc. Le fait que Néhémie soit un étranger, qu'il soit à la cour du roi, c'était déjà un très grand privilège. Mais d'avoir une charge aussi importante pouvait aussi tourner en défaveur de Néhémie. Voilà pourquoi Néhémie prie, lorsqu'il va se présenter ce projet, que le roi puisse l'accueillir avec compassion. Il fallait qu'il aille avec tact et préparation, afin que sa demande puisse bien être accueillie et puisse avoir l'assentiment du roi. C'est vous, comme par exemple, si vous êtes au travail et si vous avez besoin de demander quelque chose au patron parce que vous voulez peut-être une augmentation de salaire, vous voulez avoir une meilleure place, vous voulez peut-être changer de carrière ou de voie, vous allez vous préparer, vous allez voir pour que le patron puisse accueillir votre demande avec faveur. Mais regardons maintenant, prochain diacre, qu'est-ce qui s'est passé. Regardons qu'est-ce qui s'est passé justement par rapport à sa prière. Donc, lisons Néhémie chapitre 2, versets 1 à 2. Durant le mois de Nissan, la 20e année du règne de l'empereur Artaxerxès, je pris du vin qui était devant l'empereur pour lui en servir. Jamais auparavant, je n'avais paru triste en sa présence. Alors l'empereur me demanda, « Pourquoi as-tu mauvaise mine? Tu ne sens pas pourtant pas malade. C'est peut-être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte. Comme on l'a dit auparavant, il s'écoula plusieurs mois avant que le roi remarque la tristesse de Néhémie. Donc Néhémie, comme échancé du roi les chansons du roi, s'occupe de toutes les boissons qui sont servies à la table du roi. C'est lui qui devait faire goûter. Donc il avait une grande tâche, et voilà pourquoi que le roi avait confiance en cet homme, pour être sûr qu'il était de son côté. Donc c'était une fonction qui était importante parce qu'il était toujours en présence du roi. Voilà ce qu'il est dit dans le nouveau dictionnaire biblique par rapport au terme échanson. Ça veut dire un officier qui versait la boisson dans la coupe et la tendait au roi. À la cour d'un monarque oriental, cette charge était l'une des plus élevées et requérait la plus parfaite intégrité, sinon l'officier risquait de se laisser corrompre et d'offrir au roi du vin empoisonné. L'ascension à un tel office d'un étranger inconnu à la cour du roi de Perse démontre la preuve de la valeur morale de Néhémie. Donc, même on pourrait dire aujourd'hui, ben oui, servir du vin, c'est pas grand-chose, là. Je veux dire, c'est comme un serveur dans les restaurants. Mais imaginez qu'à ce moment-là, plusieurs voulaient prendre la place du roi. Donc, il y avait toujours une lutte. Donc, il fallait que la personne qui sert ce vin soit une personne digne de confiance. Néhémie a très bien fait son travail durant des années auprès de l'empereur. Et l'empereur a confiance en lui. Mais à cause de la situation qui se passe à Jérusalem, à cause de la tristesse qu'il exprime dans ses prières devant la désolation de la Jérusalem, Néhémie est triste. Et ce jour-là, le roi le remarque. Avant que sa demande puisse vraiment être présentée et acceptée, on voit que le témoignage de Néhémie est important. Parce que le roi remarque sa tristesse. Ça veut dire que le roi remarquait comment était Néhémie. Ce n'était pas simplement juste un simple serviteur. Il y avait une connexion aussi spéciale avec lui. Il lui faisait confiance. Donc, il savait que lorsque Néhémie se présentait avec une triste mine, c'est qu'il y avait quelque chose qui se passait. On va s'arrêter un instant sur le point de tristesse de Néhémie pour comprendre pourquoi que Néhémie a eu une crainte lorsque le roi lui demanda « Pourquoi es-tu triste ?» Dans ce temps-là, George William dit, les monarques orientaux redoutaient sans cesse d'être empoisonnés et toute l'agitation chez les chansons était considérée comme hautement suspecte. Donc de voir Néhémie avec un autre regard pouvait faire craindre au roi de dire, oh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il veut quelque chose contre moi, etc. Voilà pourquoi Néhémie le savait très bien. C'est pourquoi justement, lorsque le roi lui demande, pourquoi es-tu triste? Il est saisi d'une grande crainte, parce qu'il ne sait pas comment que le roi va réagir. Imaginez-vous d'être devant le roi du pays, que vous devez servir et avoir sa confiance, parce que c'est vous qui choisissez ce qu'il va boire. Vous savez que si votre visage est triste, ou n'est pas en forme, comme on pourrait dire, ça pourrait trahir quelque chose de suspect. Depuis 4 mois que Néhémie prie pour que la demande qu'il va faire au roi soit accueillie avec compassion. C'est-à-dire que le roi accède à sa demande, au lieu de rejeter ou même l'arrêter ou même le tuer, à cause de ses suspicions qui régnaient autour du roi en tant qu'échanson. Mais là maintenant, le moment est venu pour qu'il puisse partager sa peine et la raison de sa tristesse. Voilà pourquoi il est saisi de crainte, parce qu'il ne sait pas comment justement le roi va réagir. Mais grâce à ses prières, grâce à son témoignage tout au long de ces derniers mois devant le roi a bien accueilli sa demande. Donc lisons, prochain dialogue, lisons la suite des versets, versets 3 à 5. Néhémie chapitre 2, versets 3 à 5. « Mais je lui dis, donc Néhémie lui dit, que l'empereur vive toujours. Comment n'aurais-je pas un air triste alors que la ville où sont enterrés mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été détruites par le feu? Alors l'empereur me demanda, « Que veux-tu donc ?» J'adressai une prière au Dieu du ciel et je répondis à l'empereur. Si tel est le bon plaisir de l'empereur et si tu agrées ton serviteur, veuille m'envoyer en Juda, dans la ville où mes ancêtres sont enterrés, pour que je puisse la rebâtir. Donc on voit dans ce verset 3 comment que Néhémie choisit ses mots et l'exemple qu'il donne. Premièrement, il parle de dire « la ville où est enterré mes ancêtres est en ruine ». Donc le commentateur biblique MacArthur va dire par rapport aux ancêtres que justement les sépulcres étaient l'endroit où on témoignait du respect aux défunts de la communauté, qui avaient donné naissance à la génération suivante et leur avaient transmis leurs valeurs spirituelles. C'était donc un endroit où on espérait d'être honoré à sa mort. Donc les ancêtres étaient très respectés à cause de tout ce qu'ils avaient enseigné, tout ce qu'ils démontrer comme modèle. Donc le fait que la ville ou un terrain mis en scène est en ruine démontre que tout est en ruine, démontre la tragédie de ce peuple, qui ne peuvent même plus voir dans les ancêtres quelque chose, un modèle, quelque chose pour s'attacher, pour continuer à grandir, à prospérer en tant que peuple. La deuxième phrase qu'il dit, ces portes ont été détruites par le feu. On dit que justement les portes étaient l'emblème de la vie d'une ville, puisque justement le peuple se rassemblait pour les questions judiciaires et sociales. On le voit à plusieurs moments dans l'Ancien Testament où justement les dirigeants de la ville se rassemblent à la porte pour discuter de certains points. Donc les portes brûlées représentent la mort de la vie sociale, c'est-à-dire la fin d'une communauté. Nous pouvons dire que Dieu est grand et plus puissant. Mais lorsque la capitale du pays est en ruine, la vie de la nation est terminée, qu'il n'y a plus rien comme peuple et comme nation. Alors oui, c'est vrai que les Israélites et les Judéens connaissaient que Dieu est puissant. Mais à ce moment-là, devant l'ampleur de la ruine, de la désolation, ils étaient comme anéantis. Ils avaient l'impression de ne plus exister en tant que peuple. Voilà pourquoi que Néhémie croit que la mission que Dieu va lui donner, c'est de rendre espoir, c'est de se lever, de se rebâtir, de restaurer, de réparer ce qui a été mis en ruine. Prochain dia, on voit aujourd'hui que le constat autour de nous est assez semblable. Le fait que le mal gagne de plus en plus de place. On voit la corruption du péché, de la méchanceté. Les personnes ont perdu espoir devant tout ce qui se passe, devant les tragédies. Mais comme Néhémie, on doit continuer de prier avec persévérance, avec larmes, avec cris, pour demander la grâce, la compassion de Dieu, afin que nos demandes puissent être entendues et acceptées, et que la suite de nos prières se réalise. Donc même si Néhémie donne des points précis dans sa demande, le roi peut accepter ou pas. Mais grâce au témoignage de Néhémie, dans son travail depuis de nombreuses années, grâce à la confiance établie entre Néhémie et le roi, grâce aux prières persévérantes de Néhémie, le roi accorda ce qui lui était demandé. Voilà pourquoi l'importance du témoignage que nous avons envers les autres personnes. Aussi envers les personnes qui ont une autorité sur nous, comme par exemple notre patron. Si nous gardons justement la confiance, si nous agissons d'une façon juste envers ces personnes, alors lorsqu'on va faire une demande, Dieu va le voir, Dieu va exaucer nos prières. Je vous ai partagé dans le témoignage quand nous avons trouvé notre appartement, comment que l'importance de prier, comment que même par rapport à notre ancien propriétaire qui nous faisait toutes sortes de situations difficiles, comment c'était difficile de garder un bon témoignage, même si on était persécuté entre guillemets. Mais j'ai réalisé à travers cette expérience de l'importance de garder un bon témoignage. Ce n'est pas facile lorsqu'on te menace, lorsqu'on te harcèle, lorsqu'on te fait toutes sortes de choses qui peuvent mettre ta patience à limite. Mais j'ai appris à travers cela comment que dire, Seigneur, aide-moi à garder un bon témoignage. Et je crois qu'aujourd'hui encore, les chrétiens ont besoin de garder ce témoignage, même si on est persécuté, même si peut-être on n'est pas forcément persécuté comme dans certains pays en Afrique, en Asie ou ailleurs, au Moyen-Orient. À cause de notre foi, on peut te jeter en prison. Mais on voit de plus en plus comment que la société rejette les valeurs chrétiennes et rejette l'Église. Et donc, nous allons être persécutés peut-être aussi, peut-être pas forcément physiquement, mais par d'autres façons. Et voilà pourquoi que l'importance du témoignage reste même, pour que le monde reconnaisse que nous sommes avec Dieu et que le monde voie que malgré ce que nous vivons, nous restons droits, nous restons dans la vérité, nous restons dans la véritable justice. Prochain dia. Il y a une question que je me pose. Donc, Néhémie est chanson. Donc, ça veut dire un peu comme un serveur dans un restaurant aujourd'hui. Hein? Il est le sommet en chef. C'est lui qui décide de tout ce qui se fait, qui se donne à table du roi, jour après jour. Mais quelle est son expérience pour rebâtir Jérusalem? Hein? Est-ce que vous pensez que dans sa vie, il s'est dit, il faut que je prenne des études parce qu'un jour, je vais reconstruire les murailles de Jérusalem? Il faut que je prenne des cours pour me former en tant que leader parce que je vais diriger des milliers d'hommes et de femmes dans peu de temps. Je pense qu'il n'avait aucune expérience dans la construction. Peut-être, oui, il avait l'expérience peut-être par rapport à comment être un leader, parce qu'il avait plusieurs personnes qui étaient sous ses ordres pour pouvoir servir le roi et toute la cour. Mais malgré le peu d'expérience de la reconstruction d'une muraille, Némi avait un don de leadership et il savait compter sur Dieu qui allait lui donner les moyens de réussir sa mission. Souvent, nous, en tant que chrétiens, en tant que personne, Dieu nous donne une mission, mais nous ne sommes pas sûrs. Ah, mais Seigneur, je n'ai pas les dons, je n'ai pas les habiletés là. Je ne sais pas faire ça. Donc on dit, ah, mais puisque je ne sais pas le faire, ben, je ne vais pas le faire. Donne-le à quelqu'un d'autre qui est meilleur que moi. Et souvent, on refuse d'aller de l'avant dans la mission que Dieu nous donne à cause de ce manque d'expérience. Mais si Dieu nous a appelés, c'est qu'il avait quelque chose pour nous. On dit souvent des fois, hein, Dieu n'utilise pas forcément les meilleurs, ceux qui ont les meilleurs diplômes. Il utilise les personnes qui sont disponibles pour lui. Si nous disons, Seigneur, je suis disponible d'avancer avec toi, même si je n'ai pas beaucoup d'expérience dans le domaine que tu m'envoies, même si je n'ai pas d'expérience dans la mission ou le projet que tu as pour moi, je vais avancer parce que si tu me dis que tu dois le faire, tu vas me donner aussi la force de le réaliser. Dieu prépare le chemin, Dieu prépare le terrain, et au moment voulu, la réalisation de nos prières vont se faire. Et voilà pourquoi qu'à ce moment-là, il faut saisir l'occasion et avancer. Et regardez Némie, voyant que sa demande a touché le cœur de l'empereur et même de l'impératrice, démontre le travail de Dieu qui fait auprès d'un homme qui ne craint pas Dieu. Hein? Le roi ne craignait pas le Dieu du ciel et de la terre. Le roi accepte quand même de laisser partir Némie, et Némie va lui donner un délai. Et on sait que d'aller justement de où il était à Suse jusqu'à Jérusalem, ça a pris des mois de voyage. Et même après sur place de faire toute la reconstruction. Mais Némi a la foi pour lui dire, je vais partir un temps, mais un jour je serai de retour à la cour du roi à telle date. Mais ce n'est pas tout, regardez le prochain dia. Némi, voyant l'ouverture justement du roi devant sa demande, va plus loin. Regardez au verset 7. Il dit au verset 7, puis je l'ajoutais, si l'empereur le trouve bon, pourrais-je donc me donner des lettres pour les gouverneurs de la province à l'ouest de l'Euphrate pour qu'ils me laissent passer jusqu'au pays de Juda? Le voyage va durer 3 mois. Et c'est vrai que tout au long du voyage, il y a toutes sortes de brigands, de gens qui veulent anéantir les projets. Il y a les ennemis aussi de Juda d'Israël qui ne veulent pas que justement Némi arrive. Il y a des postes frontières que les soldats sont là et en donnant des lettres, ben, ils permettent de continuer de passer, d'avoir le sceau du roi dans la mission que le roi va lui donner. Rappelez-vous que les ennemis de Juda avaient déjà fait arrêter le travail du temps d'Esdras. Et c'est sûr qu'ils ne voulaient pas que Némi rétablisse le peuple d'Israël. Puis au verset 8, on voit qu'il demande une lettre pour l'intendant du roi afin de fournir du bois de charpente, ainsi qu'une lettre pour Asaph, l'intendant des rois impériaux, afin qu'il nous fournisse du bois de charpente pour reconstruire les portes de la citadelle près du temple et les murailles de la ville et pour bâtir la maison où je m'installerai. Donc, pour pouvoir construire rapidement la muraille, il fallait que tout soit prêt. Voilà pourquoi qu'il demande, voici, donne-moi des lettres pour que je puisse aller vers le responsable des forêts pour que je puisse prendre le bois nécessaire pour la reconstruction de la muraille et de ma propre maison. Et regardez qu'est-ce qu'il a dit à la fin du verset 8. Regardez ce qu'il dit à la fin du verset 8. Car mon Dieu agissait avec bonté en ma faveur. La bonté de Dieu était présente. Parce que ce n'était pas le projet de Némi, c'était le projet de Dieu qui a été mandaté, qui a été préparé pour que Némi puisse l'accomplir. Dieu a vu le cœur de Némi et comment il se sentait concerné par la situation à Jérusalem. Comment qu'il a prié avec insistance et persévérance dans un esprit d'humilité et de tristesse. Dieu a vu tout cela et c'est pourquoi que la faveur de Dieu était sur lui. Alors la question qu'on peut se poser aujourd'hui, est-ce que la faveur de Dieu est sur nous? Est-ce que Dieu ne nous demande pas de faire une mission en tant que chrétien et en tant que membre de l'église Carrefour de Saint-Henri? Pour cela, comme le témoignage de Némi le démontre, il faut se sentir concerné par la situation tragique du peuple. Lorsqu'on voit autour de nous le peuple qui se perd, nos concitoyens qui essayent par toutes sortes de façons d'essayer d'être heureux, de se plonger dans le travail, dans le matérialisme, dans la consommation et autres, on doit être concerné par la situation, puis prier, implorer Dieu, demander pardon les conséquences du péché, demander pardon pour le fait que les gens se sont éloignés de Dieu. Il faut prier avec humilité. Il ne faut pas dire, ben Seigneur, c'est eux, là, ils sont mauvais, puis moi, je suis juste. Non, il faut prier avec humilité. Il faut prier avec persévérance. Avec persévérance jusqu'à voir le projet de Dieu se réaliser. Il faut être à l'écoute pour comprendre le projet. Néhémie, on va le voir dans ces prochaines semaines, comment qu'il a écouté Dieu à travers ses prières. Dieu l'a préparé pour qu'il puisse rebâtir la muraille en 52 jours. Quand je vois 52 jours, je ne reviens pas. Avec aucune machine, avec aucun moyen de le faire si rapidement. Dieu avait préparé le cœur, Dieu avait donné les plans, avait donné toutes les façons de faire. Et on va le voir comment que Dieu le faisait. Il faut être à l'écoute, dire Seigneur, comment tu veux que je puisse réaliser ta mission? Puis il faut avoir le courage d'avancer lorsque la porte s'ouvre. Un jour la porte va s'ouvrir. Peut-être de témoigner à votre voisin, peut-être de témoigner à votre propriétaire ou à votre patron, peut-être de témoigner à un collègue de travail. Lorsque la porte va s'ouvrir, il faut y aller. Il faut y aller. Parce que c'est vrai que souvent, malheureusement, on prie le Seigneur et lorsque Dieu nous donne les possibilités, on est comme consterné, on est comme ébahi, comme prosté et on n'arrive pas à avancer. Dans cette nouvelle saison qui s'ouvre, hein, la rentrée, c'est toujours un peu le début d'une nouvelle ère, comme on pourrait dire. On désire poursuivre notre restauration avec notre relation avec Dieu. Et le témoignage de Néhémie nous encourage à avoir cette même attitude. Voilà pourquoi quand on a besoin de continuer de restaurer notre relation avec Dieu, pour dire, Seigneur, je veux rester dans la prière, je veux rester dans l'humilité, je veux rester à ton écoute, parce que tu as quelque chose que tu veux m'utiliser. Dans mes dons, dans mes habiletés, mais aussi peut-être dans les dons que tu vas me donner, peut-être pour faire le projet que tu as pour nous. Alors, dernier dia, comme Ésaïe 58 le dit dans le verset 12, les quatre mots qui commencent par rebâtir, réparer, restaurer, relever. Est-ce que nous pouvons rebâtir les murailles de l'Église? C'est-à-dire ce qui définit l'Église, qui est l'Église. Parce que, comme on le voit, l'Église a beaucoup de brèches, beaucoup de murailles. L'ennemi a attaqué l'Église et on voit comment que l'Église a flanchi. Et on a besoin, en tant que chrétien, que même si on est content, entre guillemets, de l'Église ou d'avoir des bonnes relations, des fraternités, d'être encouragé à l'Église, on doit voir que l'ensemble de l'Église vit des brèches. Et que le monde a besoin de voir une église qui est forte devant le Seigneur. Les gens ont besoin de voir une église qui est restaurée, une église qui se relève pour relever les fondements que Dieu, que Jésus-Christ avait donnés à la première église. On le répète souvent un peu, vous avez entendu parler un peu de ce rapport sur la laïcité. Ce rapport sur la laïcité, s'il est adopté dans les différents points communs que la Commission le demande, ça va nous enlever beaucoup de privilèges, beaucoup de points en tant qu'Église. Même aussi l'interdiction éventuelle des prières dans les rues, sont tous des signes que justement que l'ennemi travaille fort. Et on a vu que là où l'Église prie, là où les gens intercèdent, Dieu fait des merveilles. Et on a besoin au Québec de se lever. Jusqu'à maintenant, on était assez confortable. On vit une certaine liberté, on a tout ce qu'on a besoin, la nourriture, on a les assurances, le gouvernement nous aide quand on a des besoins, etc. Mais pendant ce temps-là, l'Église continuait de descendre. L'Église continuait d'être en ruine. Et on a besoin qu'aujourd'hui, les chrétiens se lèvent. Non pas juste pour chialer contre le gouvernement parce qu'il nous enlève nos droits, mais qu'ils se lèvent dans la prière. Qui se lève pour reconstruire, pour réparer, pour relever, restaurer l'Église. L'Église est attaquée par toutes sortes de façons. Et on a besoin de dire, Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons négligé de prier. Nous reconnaissons que nous avons laissé le monde entrer dans nos églises pour faire des choses qui ne s'étaient pas à ta gloire. Alors simplement courbons notre tête maintenant. Et regardons que l'Église, c'est chacun de nous. On a besoin de voir, de réaliser que Dieu nous demande à chacun de nous, on a une mission particulière. Qu'on soit jeune, qu'on soit ado, qu'on soit enfant, qu'on soit adulte, qu'on soit une personne âgée, qu'on ne peut pas même se déplacer, Dieu a une mission pour nous. Certains, c'est pour prier intensément. Pour d'autres, c'est de partager cette bonne nouvelle. D'autres, c'est d'être un témoignage là où Dieu les place. Devant ce qui se passe autour de nous, on peut soit tourner la tête et dire « c'est pas mon problème, il y a d'autres personnes qui vont le faire à ma place ». Il y a des leaders, il y a des pasteurs, il y a des responsables. Mais Dieu nous appelle tous à suivre l'exemple de Néhémie, le témoignage de Néhémie, de faire cette prière avec insistante et de faire des demandes pour qu'elle puisse être réalisée dans le temps de Dieu. Alors Seigneur, le Seigneur veut simplement ce matin qu'on puisse répondre. Est-ce que nous avons la faveur de Dieu? Est-ce que dans nos prières, nous sentons que Dieu est là? Est-ce que nous sentons que notre vie réelle est restaurée avec Dieu? Est-ce que nous sentons vraiment que notre relation avec Dieu est intacte? Ou peut-être elle est bonne le dimanche, elle est bonne quand on est avec les autres membres de l'Église. Mais le reste de la semaine, on vit en vide. On se pose des questions, où est Dieu? Où est la puissance de Dieu? Alors nous sommes encouragés comme Néhémie ce matin à continuer de prier avec persévérance, avec zèle, pour que nous puissions rebâtir, relever, restaurer les fondements de l'Église, les brèches, réparer les brèches de l'Église, restaurer ce qui a été détruit par l'ennemi. Seigneur, on te remercie pour ce rappel à travers Néhémie. Comment que tu as pris un homme qui peut-être n'avait pas envie du tout de faire autre chose que le travail qu'il faisait auprès du roi. Mais tu l'avais préparé, tu lui as donné cette conscience, ce désir. Lorsqu'il a entendu les nouvelles désastreuses de Jérusalem, de faire sa part, de faire quelque chose. Seigneur, aide-nous à voir que nous pouvons être ses ennemis aussi. Nous ne sommes pas tous appelés à diriger un peuple ou à reconstruire des murailles, entre guillemets, mais nous sommes tous appelés à faire un travail pour toi, une mission pour toi. Seigneur, là où tu nous places, que ce soit dans notre quartier, dans notre travail, dans notre voisinage, aide-nous à être justement ce témoignage de toi. Aide-nous à prier avec insistance pour nos voisins, pour ceux qui nous gouvernent, afin que la faveur de Dieu soit encore présente dans notre pays, dans nos villes, dans nos milieux de travail. Je te prie aussi spécialement pour notre Église, afin que, Seigneur, nous puissions réaliser que tu as aussi une mission pour nous ici à Saint-Ré. Peut-être que, Seigneur, dans ces dernières années, suite à la pandémie, on s'est un peu relâché. On a arrêté certaines choses parce qu'on se disait, mais les gens ne sont pas intéressés. Ou peut-être qu'on manquait de ressources, de moyens financiers et autre chose. Mais Seigneur, tu nous appelles à rebâtir la confiance en toi auprès des autres. À démontrer par nos actions, par nos paroles, par nos témoignages, notre amour, que tu es grand, que tu es puissant. Et que tu es le Dieu trois fois saint. Alors Seigneur, que tu continues de travailler en chacun de nous. Que tu nous montres pour cet automne, quelle est la mission, quel est le projet que tu as pour moi, tout pour nous, pour chacun de nous. Mission, projet peut-être envers une personne qui passe par un temps difficile, de l'accompagner, d'entourer, être un bras pour aider quelqu'un à restaurer sa vie qui est brisée, à le relever dans ses défis qu'il vit jour après jour. Seigneur, tu nous appelles. Et nous voulons répondre, me voici, envoie-moi dans la moisson. Je te prie pour chaque personne ici présente, pour ceux qui sont sur Zoom, pour ceux qui n'ont pas pu venir, je te prie que tu puisses les accompagner, tu puisses continuer de faire grandir ce fardeau pour les gens autour de nous, pour que nous puissions, comme Némi, être dans l'humilité, dans la tristesse lorsqu'on voit cette désolation, lorsqu'on voit ces hommes et ces femmes perdus loin de toi, afin que nous puissions tout faire avec les moyens que tu nous donnes, avec ta puissance, ton esprit, de pouvoir restaurer ces personnes, de leur témoigner ta grâce et tes bontés. Alors oui, Seigneur, continue de mettre ta main bénissante sur chacun de nous, continue de nous relever, de nous restaurer, afin que nous soyons des témoins de toi là où tu nous envoies. Nous prions ça, Seigneur, dans ton beau nom. Amen.